Bonjour à tous. Pas facile d'écouter une prédication par une chaleur pareille. Pas facile de prêcher non plus par une chaleur pareille. Mais on va essayer. Et je vais prier pour que Dieu nous aide. Prions. Dieu, tu es le rocher de notre salut. Et qu'est-ce que nous pouvons bien te dire ? Tu es bien au-dessus de nous. Nous reconnaissons nos fautes, nos manquements. Même lorsque nous voulons bien faire, nous ne sommes pas à la hauteur du zèle, de l'amour, de la bonté que tu voudrais voir chez nous. Pardonne-nous par le sang de Christ et nous prions que nous puissions être pleinement attentifs ce matin malgré les circonstances, malgré peut-être les nuits difficiles de sommeil. Que nous puissions t'écouter. Seigneur, nous te prions que tu agisses dans le cœur de chacun pour que ceux qui ont besoin d'être consolés, réconfortés, ne soient pas dérangés, mais que ceux qui sont dans la complaisance, dans l'endurcissement de leur cœur, ne soient pas non plus trompés par le péché, puissent être interpellés, réveillés par toi. Seigneur, tu sais ce dont nous avons besoin. Et je te prie que tu puisses agir par ta parole puissante, par ton esprit qui nous connaît, qui nous sonde. Je te prie également que nous puissions avoir les yeux à nouveau, les yeux spirituels ouverts sur la réalité de Jésus, sa gloire, sa grandeur, sa bienveillance, sa présence, et être réjouis par la paix que tu donnes. Amen. Il y avait une série à succès qui a commencé en 2001 qui s'appelait 24 heures chrono, dans laquelle nous voyons un agent fédéral qui s'appelait Jack Bauer en train d'être en action en divers scénarios. La particularité de cette série de 24 épisodes, c'était que chaque épisode avait juste une heure. Ça racontait une heure et les heures se succédaient comme les épisodes se succédaient. Donc après avoir vu 4-5 épisodes, on était toujours le même soir avec Jack Bauer. À la fin de cette série, il avait vraiment passé une semaine très difficile. Mais nous avons un peu le sentiment, dans notre série, dans l'Évangile de Jean, que nous avançons un peu dans ces 24 heures. Après quelques épisodes, nous sommes toujours au même soir, le soir du jeudi, la veille de la mort de Jésus, le vendredi, qu'on appelle Vendredi Saint. Jésus est toujours en train de discuter avec ses disciples. On avance très lentement. Il a lavé leurs pieds. Il avait annoncé sa trahison pendant le repas. Il aura aussi institué la Sainte Cène que nous avons commémorée juste là maintenant. Et il avait annoncé son départ qui dérangeait déjà ses disciples. Il allait préparer une place pour les disciples, dit-il, en les rassurant. Et il va envoyer l'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais maintenant, il va dire la suite. Et si ces choses nous semblent un peu familières, c'est parce que nous sommes toujours dans le même discours, mais il y a quand même des choses différentes. Je vais lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, à partir du verset 19. Et il y a beaucoup de sujets dans ce discours. Peut-être qu'on va... Il y a beaucoup de couleurs, et je pense qu'on risque de s'emmêler un peu les pinceaux. Il va être question de parole, il va être question du Père, il va être question de certaines promesses, du rôle de l'Esprit. Donc pour vous aider juste à comprendre directement la lecture, j'attire votre attention sur les fois où il parle du monde. Parce qu'il y a effectivement cette autre dimension dont il parle dans ses discours, n'a pas vraiment évoqué auparavant. Donc écoutez bien quand il mentionnera le monde et vous verrez un peu les différences qu'il y a dont on a déjà parlé un petit peu ce matin grâce à Léon. Jean 14, verset 19, c'est Jésus qui parle. « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai. » Et je me ferai connaître à lui. Jude, à distinguer de l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ? Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. Cependant, ainsi le monde saura que j'aime le Père, et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Le monde ne me verra plus, dit-il au verset 19. Le monde ne donne pas la paix, verset 27. Par contre, il y a dans le monde un prince, un chef, qui s'attaque au Christ, verset 30. Ayant saisi cela, je vous recommande de comprendre cette partie du discours, qui n'est pas simple, en considérant l'action du Père, de l'Esprit et du Fils. Il y aura une ambiance trinitaire à ce message, qui est tout à fait normal quand on regarde ce qu'il dit. L'ordre est un peu différent, parce que généralement on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais ici il parle du Père, et puis de l'Esprit, et puis du Fils. Considérez cela avec moi. D'abord, l'amour du Père. Dieu, le Père, nous aime, nous savons cela. Mais je veux comprendre ce qu'il y a ici, qu'il n'y a pas autre part dans la Bible. Et en fait, il est en train de dire que l'amour de Dieu le Père est différent pour les chrétiens que pour le monde. C'est quelque chose à saisir. L'amour de Dieu le Père est différent pour le monde que pour les chrétiens. Jude nous aide, verset 22. Ce disciple qui avait presque le même prénom que Judas, naturellement a voulu être connu sous un autre prénom. Et généralement, on l'appelle par son autre prénom, qui est Thaddée. Il est appelé ailleurs, comme ça, dans les évangiles, Thaddée, un nom qu'on ne donne pas souvent aux enfants chrétiens, mais bon, c'est quand même un nom biblique. Ce n'est pas un gars très célèbre, Thaddée. Les disciples, on les connaît, hein, donc Simon-Pierre, Jean, Matthieu, mais Thaddée, on ne le connaît pas très bien. Alors, ce n'est pas Judas l'Iscariote, il le précise au verset 22, qui est parti pour trahir Jésus. Judas n'est plus dans le cercle des onze qui se trouve devant Jésus en train de l'écouter. Et donc, Jude va poser cette question, et en fait, il ne dit rien d'autre dans toute la Bible. Celui qui a écrit la lettre de Jude, c'est un autre Jude. Et donc, ici, c'est la seule phrase, les seules paroles de Jude, qui n'est pas l'Iscariote, dans toute la Bible. Vous imaginez ce que vous avez dit sur Jésus les trois années précédentes, dans vos conversations, dans vos prières, etc. Imaginez qu'il n'y a rien qui soit retenu de tout ce que vous avez dit sur Jésus, à part une seule phrase, et c'est celle-là. « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Voilà le ministère de Jude pour toute l'éternité, hein, une seule phrase. Et en fait, Jésus ne répond pas exactement à la question. De manière assez typique, Jésus va dire un peu autre chose. La réponse à la question de Jude, pourquoi est-ce que tu vas te montrer à nous et pas au monde ? En fait, il dit, verset 19, « Vous allez me voir, mais le monde ne va pas me voir après ma résurrection. Je vis, je ne vais pas mourir, et vous vivrez aussi. » Et donc la réponse est que Jésus va sélectionner à qui il apparaît après la résurrection. Jusque-là, Jésus a été vu par tout plein de gens, n'est-ce pas ? Et il a été vu dans les différentes villes, dans la campagne, parfois des foules qui sont venues manger, des milliers de gens qui étaient présents, des pharisiens l'ont vu, des gens fâchés l'ont vu, des ennemis, des amis. Mais après sa résurrection, ça va être différent. Il sera vu plein de fois par les disciples, même par un groupe de 500 personnes, mais pas dans les rues de Jérusalem, pas dans les places publiques, plus dans le temple. Le temps du ministère public de Jésus est terminé. Pourquoi se fera-t-il connaître aux disciples et pas au monde ? Et c'est vrai que la question de Jude est bonne. Et la réponse est que les vrais chrétiens et le monde sont différents. Il avait déjà dit au verset 17, maintenant il va vraiment l'appuyer. Verset 17 dit ceci, « L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. » La différence est aussi dans l'amour que nous avons et l'obéissance. Jésus le souligne, jetez un coup d'œil au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Et il le rappelle, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Voilà ce que nous pouvons dire sur les chrétiens. Ils aiment Jésus et ils obéissent au commandement de Christ. Enlevez l'amour des chrétiens pour Dieu et vous avez du légalisme. On fait ce qu'il faut faire, on obéit, il y a des commandements, c'est comme ça. Mais enlevez l'obéissance et vous avez du sentimentalisme. Ah, oh, qu'est-ce que j'aime, ah, oh, ça me fait du bien. Mais il n'y a pas de vie derrière, il n'y a pas de concrétisation, d'obéissance. Mais ensemble, c'est clairement très différent de ce que les autres font. Les autres n'aiment pas Jésus et ils n'obéissent pas à Jésus. Et Jésus est clair, il y a des gens qui ne l'aiment pas et qui ne gardent pas sa parole. Parfois, des gens me demandent, c'est quoi en fait un chrétien ? C'est quoi être chrétien ? C'est quelqu'un qui vient à l'église ? C'est quelqu'un qui est baptisé ? C'est quelqu'un qui porte une croix ? C'est quoi en fait un chrétien ? Eh bien, on peut dire à partir de ce passage, trois choses toutes simples. La foi en Jésus. Jésus dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi, verset 1. Où est-ce que ta confiance est placée ? L'amour pour Jésus. Pas juste l'amour en général pour Dieu, mais l'amour pour Jésus spécifiquement. Et l'obéissance à Jésus. Si vous avez la foi, l'amour et l'obéissance, ben c'est que vous êtes chrétien. Donc, Dieu n'interagit pas avec tout le monde de la même manière. Il traite les chrétiens d'une manière particulière. Il les aime. Il les aime. Alors on va dire, oui, mais en fait, Dieu aime tout le monde. Oui, peut-être que vous êtes bienveillant envers tout le monde, mais vous aimez vos enfants de manière spécifique, n'est-ce pas ? Et c'est ce que Dieu a pour ses enfants. Un amour spécifique et bienveillant. Il dit au verset 21, « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » Quelque chose de spécial, quelque chose de particulier. Et il continue, « Et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Ça nous interpelle, n'est-ce pas ? Est-ce que nous sommes de ceux qui disent « J'aime le Seigneur » ? Et si oui, est-ce que nous l'aimons plus que toute autre personne ? Est-ce que nous l'aimons plus que toute autre chose ? Je pense à nos enfants, diverses familles de notre Église. Là, nous voyons parfois nos priorités, n'est-ce pas, dans la façon dont nous éduquons nos enfants. Qu'est-ce qui compte pour nous ? C'est ce qu'on va essayer de les inculquer. Et je vais probablement attirer l'opposition de tous les parents, mais je n'ai pas peur, je veux dire un mot concernant les examens. Évidemment, nous voulons que nos enfants étudient. Mais nous devons les éduquer à aimer le Seigneur, même plus que le succès académique. Pendant les examens, est-ce que nous voulons qu'ils aiment Dieu ? N'est-ce pas plus important que d'avoir réussi leur année, leurs études et obtenu un diplôme ? Est-ce qu'on leur dit cela ? En tant que père, en tant que mère, vous imaginez l'impact de nos paroles. Tu sais, tu peux rater tes examens, mais ne rate pas ta vie avec le Seigneur. C'est bien plus important. Et souvent, il me semble, et je ne vise personne, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont tout sacrifié pour leurs études, en abandonnant le Seigneur pour la période de révision. Et c'est tellement dangereux, parce qu'ils risquent d'abandonner le Seigneur carrément pour tout le temps. Ce n'est pas le bon choix. Par contre, je suis heureux aussi de dire que je peux penser à au moins deux exemples dans cette salle qui pourraient vous dire ils ont mis Dieu à la première place pendant la période des examens. Et ça les a beaucoup aidés, même à gérer leur travail et le stress, parce qu'ils ont montré que leur priorité, c'était Christ. Aimer le Seigneur plus que tout. Et Dieu alors aime ceux qui l'aiment. Un tel amour qui fait qu'il s'approche de nous, il prend sa demeure en nous. Regardez le verset 20, c'est la surprise. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père. Ah oui, ça, on le sait, Jésus est dans le Père, il l'a déjà dit. Que vous êtes en moi. Oui, on comprend cela, nous sommes unis à Christ, nous sommes en Christ. Et moi, en vous. Ça, c'était quelque chose de bouleversant pour les disciples. Jésus était en train d'annoncer une nouveauté. Ils étaient toujours associés avec Jésus, mais là, il est en train de dire, je vais être en vous. Et c'est quelque chose de formidable. Il va encore aller plus loin au verset 23. Il dit, si quelqu'un m'aime, nous viendrons, il parle de lui, le Fils et le Père, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire, ça? C'est rassurant. La proximité de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de paix parce que c'est important. Et c'est seulement parce que Dieu est là, avec nous, que nous pouvons connaître la paix. Nous avons, je pense, un peu l'habitude d'avoir l'Esprit. Ça fait des années que nous l'avons. Depuis la Pentecôte, l'histoire de l'Église, l'Esprit est là. Et depuis notre conversion, peut-être il y a 30 ans, comme moi, un peu plus même, on connaît, on a l'Esprit. Eux ne l'avaient pas. Mais Jésus est en train de leur dire, vous savez, ce n'est pas la fin. Moi, je m'en vais, mais ce n'est pas la fin. Je serai avec vous, je serai en vous. Récemment, nous avons essayé d'imaginer ce qui serait passé dans le monde si Jésus n'était pas parti vers le ciel. Il est mort à la croix, il était ressuscité, et puis il est juste resté là, à Jérusalem. On avait essayé d'imaginer cela il y a quelques semaines, 2 semaines, je pense. Maintenant, on va essayer d'imaginer que Jésus était parti vers le ciel, mais que l'Esprit n'était pas venu. Comment est-ce que les disciples se sentiraient? Jésus n'est plus là. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Ils se regardaient en disant, on va continuer, on va aimer Jésus, il est au ciel, et on va obéir, on va vraiment travailler, on va essayer, on va faire ce qu'on peut, etc. Mais c'est nul, ça, comme vie chrétienne. On se sentirait comme orphelin. Mais Jésus dit, vous n'allez pas être orphelin. Verset 18, je ne vous laisse pas orphelin, je reviens vers vous. Et l'Esprit, on doit vraiment comprendre ça comme l'Esprit de Dieu, c'est Jésus qui vient. C'est Jésus qui vient. Ce sera la présence de Jésus avec eux, avec nous, en nous. Parce que Dieu le Père nous aime. Il nous aime à tel point qu'il veut être en nous. Ça, c'est l'amour du Père. Ensuite, l'enseignement de l'Esprit. Cette section met un grand accent sur les paroles de Jésus. Il rappelle, si Jésus part, il a le risque qu'ils oublient le message de Jésus. Alors le risque, c'est qu'il y aurait de l'amour pour Jésus, mais cet amour diminuerait parce qu'il ne garderait pas la parole. Et Jésus a dit, ceux qui m'aiment gardent ma parole. Alors n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Et justement, pour les aider, il annonce au verset 26 une aide. L'Esprit Saint, il a déjà annoncé qu'il viendra, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses pour qu'il n'oublie pas les paroles de Jésus. Très souvent, lorsque nous pensons au Saint-Esprit, nous pensons à ses autres œuvres. Il nous sanctifie. Il est la puissance de Dieu pour la proclamation de sa parole. Mais ici, il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit est un esprit qui enseigne. Il joue un rôle clé pour que les jeunes, les disciples, comprennent quelque chose qu'ils n'avaient jamais compris auparavant sur Jésus. Après sa mort, ils vont comprendre sa mort. Pourquoi il est mort? Le sacrifice, paye entre dettes devant Dieu. Mais ils vont aussi comprendre l'Ancien Testament d'une toute nouvelle manière. Les paroles des prophètes qui révélaient à l'avance quel type de Messie allait venir et allait les sauver. Ils vont comprendre aussi le plan de Dieu pour l'Église, et puis ils vont comprendre l'avenir, les temps derniers, la fin des temps, comment Dieu va agir. L'Esprit de Dieu était en eux pour les instruire, pour qu'ils écrivent le Nouveau Testament. Mais il va aussi leur rappeler des choses, dit verset 26. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors comment se fait-il que nous avons les paroles de Jésus dans les évangiles? Vous vous souvenez de tout ce que quelqu'un vous a dit il y a 30 ans? Probablement pas. On peut se souvenir de certaines conversations qu'on a eues, des conversations clés, avec des amis, avec des proches, parfois longtemps après. On peut se souvenir de quelques messages qu'on a écoutés, j'espère en tout cas, après quelques années. Mais la mémoire serait défaillante. Ici, c'est une mémoire augmentée par le Saint-Esprit pour qu'ils se souviennent de tout ce que Jésus leur avait dit. Dans certaines éditions de la Bible, je ne sais pas si vous avez cette édition, les paroles de Jésus sont en rouge dans la Bible. Et en fait, il faut comprendre que oui, le Saint-Esprit a rappelé ces paroles de Jésus, mais le reste vient du Saint-Esprit aussi. Il a inspiré tout l'Ancien Testament et tout le Nouveau Testament. Alors pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Il se peut que le Saint-Esprit nous aide à nous souvenir de quelque chose, de sa parole. Ce que nous avons lu le matin, peut-être que ça va nous revenir pendant la journée, c'est bien, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Pendant que nous parlons de lui, parfois une phrase nous revient et on sort quelque chose et dit, je ne savais pas que je savais cela, mais j'étais content de penser à ce verset-là juste à temps pour cette conversation. Et effectivement, c'est le Saint-Esprit qui nous donne une réponse apte à la personne avec qui nous sommes en conversation. Mais vous savez, cette promesse, elle est vraiment pour les disciples, les onze disciples, à la base. Dans notre cas, il est nécessaire de passer du temps dans la parole de l'Esprit, à lire la parole de l'Esprit, pour qu'on les retienne. Si nous voulons vraiment nous souvenir facilement des vérités bibliques, ça passe par l'étude attentive, la lecture attentive, l'attention. Peut-être un dimanche matin, dans une prédication, ou dans votre temps personnel, ou dans l'étude biblique, ou autre chose. Retenons la parole de l'Esprit, l'enseignement de l'Esprit. On passe rapidement au point majeur, parce que c'est le troisième point, c'est la paix du Fils. La paix, au verset 27. Je vous laisse la paix, ou paix, je vous laisse. Et puis ma paix, je vous donne. Pas comme le monde donne. On aurait peut-être imaginé ça différemment, on aurait peut-être imaginé qu'ils disent « Je vous donne ma paix, mais je ne donne pas ma paix au monde. » N'est-ce pas? Ce serait logique. « Je vous donne ma paix, mais je ne donne pas ma paix au monde parce que Dieu vous aime d'une manière particulière. » Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit « Je vous donne ma paix, que le monde ne donne pas la paix. » Et c'est vrai lorsqu'on y pense. Le monde ne donne pas la paix. Pas vraiment. La vie peut nous sourire. À un moment, nous pouvons croire que tout va bien. Le temps d'un week-end ensoleillé comme celui-ci, on peut oublier nos problèmes. Un moment de répit à la fin d'une journée. On peut trouver le calme. Notre tension diminue. Mais ce n'est que très court. Et rapidement, les dangers reviennent. Et le risque de perdre. Et nous sommes déstabilisés, n'est-ce pas ? Comment réagissons-nous ? Il nous faut un autre type de paix. Pas la paix des circonstances du monde, mais la paix que Jésus donne. Jésus est ici en train de faire son testament. Il remettra son esprit au Père lorsqu'il meurt à la croix. Il laissera son corps à Joseph d'Arimathée qui va lui donner un enterrement convenable. Ses vêtements seront partagés par les soldats. Sa mère chargera Jean, qui écrit cet évangile, s'occuper d'elle. Mais que laisse-t-il à ses disciples? Il laissera un trésor. Il laissera un héritage, un cadeau. Je vous donne ma paix. Voilà ce qu'il lègue à ses disciples qu'il aime réellement. Et j'aime bien la citation de Matthieu Henry dans son commentaire sur l'évangile. Les dons de Christ enrichissent l'âme pour l'éternité. Les dons de Christ enrichissent l'âme pour l'éternité. Retenons cela. Ce n'est pas une belle phrase. C'est une belle phrase, mais ce n'est pas qu'une belle phrase. C'est une bénédiction qui est certaine. Si nous sommes en train de croire en Jésus, si nous mettons en pratique le verset 1, alors notre cœur ne sera pas troublé, car les promesses de Dieu sont vraies. Elles sont que nous aurons la vie éternelle, que personne ne nous ravira de sa main, et qu'il sera avec nous. Cette paix qu'il a établie entre nous et lui, c'est une paix que nous pouvons ressentir, que nous pouvons vivre. Vous savez, dans Philippiens, il est question de paix. Et il dit, ne vous inquiétez de rien, vous connaissez cela, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière, avec reconnaissance, remettez vos sujets à Dieu. Juste avant ce verset, il est dit, le Seigneur est proche. Et juste après, à la fin de la section, en Philippiens 4, où il dit, ne vous inquiétez de rien, il dit, le Dieu de la paix sera avec vous. Alors, j'essaie de vous aider à comprendre ici que la paix ne vient pas comme ça, juste par hasard. La paix vient du fait que Dieu est proche de nous. Dieu, le Dieu de la paix, est en nous. Celui qui nous aime, celui qui a envoyé son Fils et son Esprit, il est vraiment proche de nous. Et alors, nous pouvons être en paix. Nos parents ne peuvent pas être là. Parfois, nos amis ne sont pas proches de nous, ne sont pas là quand on en a besoin. La maladie peut faire intrusion dans notre vie et nous coller à la peau. Eh bien, le réconfort vient du fait que Dieu est aussi proche que possible. Il est encore plus proche. Il est en nous. Comme le dit le chant, les dangers accourent, subtils, inconnus. Plus près il m'entoure, plus près est Jésus. Et c'est ce que nous devons vivre, expérimenter. Cette présence de Jésus en nous, pour nous donner sa paix. Et il faut que tu te dises, quand tu te sens seul face à la vie, Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais toute seule. Je ne suis jamais tout seul. Il nous a dit à l'avance, afin que nous croyions en lui, verset 29, que notre foi ne faiblisse pas lorsque nous sommes éprouvés. Le prince de ce monde vient, dit-il au verset 30, Jésus savait qu'il y avait Judas, il y avait le Sanhédrin, les responsables, il y avait des soldats, des Romains qui allaient le mettre à mort. Derrière tout cela, il y avait l'œuvre du malin, l'adversaire. Mais il n'a rien en Jésus. Jésus était parfaitement pur. Il ne va pas chuter. Il ne va pas douter dans l'heure de la tentation. Il ne va pas abandonner sa mission. Il ne va pas s'enfuir en courant dans la panique. Il va rester calme, en paix, il est prêt à agir, parce qu'il dit « j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné ». Et donc on est prêt à se lever et à aller à rencontrer l'adversaire. Quel sauveur extraordinaire. Nous avons vu l'amour du Père pour nous, nous devons l'aimer de retour. Nous avons vu l'enseignement de l'Esprit, nous devons nous laisser instruire par lui, nous devons connaître sa parole. Mais nous voyons aussi la solidité de la paix avec Christ. On va relire le verset 28 pour essayer de comprendre cette partie-là aussi. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Il dit « je m'en vais et je reviens vers vous », c'est-à-dire il meurt et il ressuscite. Mais aussi il part et puis il enverra l'Esprit, il viendra avec l'Esprit pour habiter auprès d'eux et auprès de nous. La meilleure chose que les disciples pouvaient imaginer, c'était que Jésus reste, qu'il ne s'en aille pas. Mais Jésus dit « en fait, je vais faire quelque chose de meilleur. Vous pensez en termes humains de ce qui serait mieux pour vous, mais ce serait meilleur si je m'en vais ». Et que je reviens par l'Esprit. Et si Jésus était prêt à quitter son ministère terrestre pour commencer un ministère avec une autre forme, nous devons nous aussi apprendre à quitter notre ministère terrestre, changer de ministère tant que nous sommes dans ce ministère que Dieu nous appelle. Peut-être changer de ministère est la meilleure chose à faire. Il faut être prêt à laisser sa place, à changer de rôle. Je ne dis pas de ne rien faire, mais de changer ce que nous faisons comme service pour le Seigneur. Vous savez, dans l'Église, souvent quelqu'un commence et on dit « Ah, c'est bien, on a trouvé quelqu'un, fais-le pour le reste de ta vie. » C'est comme ça. Maintenant, continue pour toujours. Continue. Et le message est toujours persévère. Mais, vous savez, parfois, il faut comprendre comment Dieu voit les choses. qu'il y a différents temps, différentes formes de service, et que nous pouvons quitter un service et faire un autre, et toujours être en train de faire plaisir à Dieu. Je prends un exemple d'une conférence évangélique en Amérique du Nord, qui servait les pasteurs depuis 2006. Première conférence qu'ils ont organisée, ils avaient 3000 personnes. À leur conférence en 2022, ils étaient 12 000. Et ils ont dit que c'est la dernière édition. Et nous, on dit, non, ça marche. Il y a des gens qui viennent. Les gens veulent cette conférence. Regardez le nombre de personnes qui sont intéressées. Continuez, faites ça, toujours. Mais un des fondateurs a dit, j'ai d'autres choses à faire. À ce stade de ma vie, je dois me concentrer sur... Et puis il a listé d'autres ministères, d'autres parties de son rôle. C'est possible que ta vie a beaucoup changé depuis que tu as commencé un ministère particulier. Tu n'as plus le même temps, peut-être que tu n'as plus le même horaire, tu n'as plus la même liberté. Et donc aucun service, nous devons comprendre, aucun service n'est une peine à perpétuité. C'est plutôt un service volontaire pour le Seigneur, sous sa guidance. Il faut être prêt à dire spontanément, quelqu'un d'autre peut faire cette tâche, peut-être qu'il fera même mieux que moi. Et puis, il faut se concentrer sur autre chose. Comme Jésus a montré, quitter son ministère sous une forme pour continuer son ministère sous une autre forme. Il dit aussi, vous vous réjouirez de ce que je vais auprès de mon Père. Parce que nous pouvons être contents que Jésus est maintenant plus dans la souffrance de ce monde, avec ses tentations et ses luttes et ses opposants. Il est maintenant dans la gloire. Quelle joie, après avoir été humilié, après avoir souffert, après qu'il a été abaissé, volontairement il s'est abaissé. Maintenant, il est égal au Père. Il est élevé dans la gloire. Quand il dit que le Père est plus grand que moi, il n'est pas en train de dire que le Père est plus Dieu que le Fils, comme si le Père est plus saint ou plus sage ou plus bon ou plus puissant que le Fils, mais simplement que Dieu est celui qui l'envoie. Dieu le Père est celui qui donne les ordres, et Dieu le Fils est celui qui accomplit cette volonté dans le salut. Alors, réfléchissons à ces choses, méditons ces choses, la paix que Dieu nous donne, et que cela nous permette de vivre dans ce monde, sans avoir peur du monde, sans avoir peur de ce qui peut nous arriver dans ce monde, mais en étant rempli de la paix véritable qui vient de Jésus. Oui, Seigneur, notre Père, nous voulons te remercier parce que tu nous aimes d'un amour fort. Tu nous aimes et tu veux que nous t'aimions en retour. Te remercions également parce que ton esprit nous enseigne à suivre tes voies. Ton esprit nous éclaire lorsque nous lisons la parole. Ton esprit nous conduit. Ton esprit est aussi en train d'agir envers notre conscience pour nous dire ce qui ne va pas, ce qui ne va pas te plaire. Merci pour ta présence en nous. Te remercions aussi pour la paix que tu donnes, qui vient justement par ton amour, par ta présence, par ton esprit. Que nous puissions connaître cette paix, qu'elle soit indestructible dans notre vie. C'est la paix que Jésus donne, la vraie paix. Nous voulons te prier que nous puissions l'expérimenter à nouveau, en marchant avec toi, en comptant sur toi. Que nous puissions continuer à croire, à te faire confiance et à savoir que tu agis et tu agiras aujourd'hui et demain parce que tes promesses sont sûres. Tu vas accomplir ton projet. Tu vas nous sauver. Tu vas nous ramener à bon port pour être auprès de toi. Merci Seigneur. Amen.